On va prendre nos Bibles dans Romains chapitre 6. Donc Romains chapitre 6, nous allons reprendre notre série. Donc, Romains chapitre 6, et nous allons lire à partir des versets 15 jusqu'à la fin du chapitre, 15 à 23. Romains chapitre 6. Et donc, je vous ai déjà dit que nous avons intitulé cette étude « La vie nouvelle d'un affranchi hein, ». Donc, celui qui a été esclave et qui est maintenant affranchi. Donc, Romains chapitre 6, verset 15. « Quoi donc ? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce ? Loin de là. Ne savez-vous pas ? Qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit ou livré. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car, lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui ? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Les deux derniers versets, là, résument à peu près tout le chapitre, et puis surtout notre passage, où il dit « Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, juste pour... parce que, vous savez, c'est une continuation d'une pensée hein, depuis le début du livre. Donc, c'est bien de se resituer là, dans ce passage. Donc, au chapitre 4, déjà, l'apôtre Paul, en s'adressant aux Romains, il établit le fait que le salut est par la foi. C'était vrai pour Abraham, c'est vrai pour David et c'est vrai pour nous. Le salut est par la foi et par rien d'autre. Et c'est par la foi que nous est imputé ou mis à notre compte la justice ou la justification. Hein, donc on est déclaré juste, même sans l'être, mais on est déclaré juste. Hein, c'est la personne sort de prison. Et il y avait une raison pourquoi elle était là, mais elle sort avec un casier judiciaire vierge, comme quelqu'un qui n'a jamais rien fait. Hein, c'est ça, la justification. Et au chapitre 5, il a continué, et il a parlé justement du fruit de cette justification, les versets 1 et 2. Il nous parle de ce fruit, il nous dit « Vous êtes justifiés par la foi, et nous avons la paix avec Dieu » par notre Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, au verset 2, il nous dit « Et nous avons l'espérance de la gloire de Dieu. » Donc nous avons la paix avec Dieu et nous avons l'espérance de la gloire, la bienheureuse espérance, celle d'être avec lui un jour. Donc, quand nous sommes justifiés par la foi, eh bien, nous avons la paix avec Dieu. Ça veut dire que tout est en règle. Hein, et on n'est pas obligé de baisser les yeux devant Dieu ou de vivre dans la crainte. Non, c'est tout est en règle, tout est bon. Et voilà, nous sommes confortables dans sa présence. Et donc, ensuite, à la fin du chapitre 5, et il dit, eh bien, nous avons placé, maintenant que nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, eh bien, vivons selon le nouveau régime. Hein. On était dans un régime qu'on n'a pas choisi, on est né dans le péché. Eh bien, il dit, maintenant que nous sommes libérés, alors vivons de ce nouveau régime, ce nouveau statut. Et donc, il nous dit que nous étions morts, mais maintenant, nous avons un nouveau statut. Le péché est mort par rapport à nous, et nous avons une vie nouvelle. Et c'est un régime qui n'est pas géré par la loi de Dieu qui condamne, mais par la grâce de Dieu qui relève, qui encourage. Et croyez-moi, ça change tout. Hein, ça change tout. Vous faites votre devoir et la personne qui corrige, vous avez certains qui sont en train de regarder que les fautes et ils vous parlent que de vos fautes. Et il y a un autre qui corrige, mais qui regarde ce qu'il y a de bon, et dit, ouais, je vois que tu as compris ça, je vois que tu as compris bien, c'est très bien, et il fait des compliments. Vous savez, ça se vit différemment. Hein? Surtout quand c'était mes dictées d'orthographe, là. Oh. Mais c'est ça. Hein? C'est autre chose. Alors il dit, avant c'était la loi, chaque fois quelque chose, ah ça, tu as mal fait là, tu as mal fait là. C'est pas fait pour l'épanouissement de la personne. Mais quand on est sous la grâce, où Dieu dit, écoute, je comprends ta faiblesse, je vais t'aider, on va t'encourager, et puis c'est bien, on continue, mais ça c'est ce qu'il faut. Hein, dans l'éducation des enfants, on le sait, mais c'est spirituellement aussi, c'est ce qui est idéal pour notre épanouissement et pour que nous on devienne, en tant qu'être humain, tout ce que Dieu avait voulu de nous, hein, quand il a créé l'homme. Et donc on avait vu ce verset 21. Verset 20 et 21, chapitre 5, il dit: la loi est intervenue pour que l'offense abonde, c'est-à-dire qu'il a mis en valeur l'offense, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc il dit: il y avait un ancien régime, il y a un nouveau régime, hein, et c'est pas du tout le même principe. Et donc maintenant, nous vivons sous un principe de la grâce. Et alors, bien sûr, vous savez, il y a toujours quelqu'un pour poser des questions. Chapitre 6, il y a deux questions. Là, la dernière fois, on a vu la question qui est au verset, chapitre 6, verset 1. Il dit: demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde, puisque le péché donne occasion à la grâce d'agir. Hein. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de grâce. Donc, ben, si ça l'aide, hein, ben, alors continuons dans le péché. Il dit: non, 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 non. On n'a pas besoin. Dieu, sans le péché, sa grâce, elle est toujours là. Elle ne se nourrit pas de péché. Hein. Elle est là pour couvrir. Et puis la deuxième question, c'est justement celle qu'on a vue au verset 15, et c'est de là qu'on va partir. J'y pêcherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Il dit, mais bon, puisque Dieu veut pardonner, Dieu peut pardonner, et il est gentil comme nous, est-ce qu'on va on va pécher plus? Bah, écoutez, déjà, naturellement, avec des enfants, si vous êtes bon avec eux, si vous les encouragez, il y a des compliments, vous êtes là pour aider, déjà, il va vouloir faire. Hein, il va vouloir plaire, il va vouloir s'améliorer. Hein, contrairement à celui qui est toujours en train d'être condamné. Eh bien, il dit, donc c'est pas... ce qui sera normal, hein, on va arriver à ça, ce qui est normal pour celui qui vit sous la grâce, c'est de vouloir vivre pour Dieu. Il va le désirer, même s'il le fait imparfaitement, mais il va vouloir, parce qu'il veut plaire. Hein, alors, la question, c'est... Maintenant, on dit, bon, d'accord, je comprends. Il y avait un moment, hein, ma vie est marquée par un avant. Puis après, il y a le moment où j'ai rencontré Jésus sur la croix, j'ai prié, j'ai demandé de pardonner mes péchés. Mais ce que je vois, c'est quand même difficile. Hein, et les tentations sont là, la chair est là, des désirs. Et puis dès que je me relâche un peu, puis c'est parti. Eh bien, la vérité, c'est que nous vivons dans une période intermédiaire, un état intermédiaire. Nous avons été rachetés par le sang de Christ, ça c'est un fait, hein, c'est pas un futur, c'est une réalité. On a été, hein, parce que, là, à partir, comme on a dit, hein, à partir du chapitre 5, on parle à des chrétiens maintenant. Hein, donc, il dit, oui, vous avez été rachetés par le sang de Christ, mais la délivrance totale se fera au moment où nous ressusciterons, hein, de la tombe, ou quand Christ viendra prendre les siens. C'est à ce moment-là que vraiment nous serons libérés du péché. Alors nous sommes dans un état intermédiaire où, comme je dirais, nous sommes sauvés sur papier. Hein, c'est déjà signé, le document est signé, c'est sur papier, c'est comme si. Mais on n'a pas pris possession encore de ce salut pleinement. Il est là. Je veux prendre un exemple, par exemple, c'est lorsque vous êtes dans un logement, vous êtes locataire, et puis vous décidez de l'acheter. Hein, le propriétaire, il veut le vendre, vous décidez d'acheter le logement dans lequel vous vous trouvez. Donc, c'est très bien. Ils vous font un prêt, donc vous allez consulter la banque, et puis après, vous allez chez le notaire, vous signez, et le notaire vous dit, c'est à vous maintenant. Mais vous savez, bon, il y a encore, la banque, elle a encore son mot à dire, hein. Surtout si on n'est pas à jour avec les traites. Tant qu'on reste à jour, la banque se tait. Ici, il y a toujours il y a quelque chose comme ça, mais le jour où on a fini de rembourser, alors là, on dit, là maintenant, je suis chez moi. Hein, il n'y a plus personne qui peut me dire quoi que ce soit. Et donc, c'est un peu cette période-là, nous sommes, il dit, oui, vous êtes propriétaire, c'est signé, le notaire dit que vous êtes propriétaire, et en même temps, vous avez cette ancienne vie qui est là, qui tire, qui veut, et puis qui vous critique, et qui vous accuse, et tout ça. Mais, sur papier, je suis propriétaire. Quand ça sera pleinement remboursé, bon, c'est pas que pour notre salut, tout est payé, hein, il n'y a pas de problème, l'image est imparfaite, mais bon, en tous les cas, c'est pour un peu illustrer cet état intermédiaire. Maintenant, je sors de chez le notaire, hein, j'ai signé, bon, la banque, ça y est, elle a fait tout, je sors, j'ai un document qui me dit, vous êtes propriétaire, il y a mon nom dessus. Maintenant, je retourne à la maison. Comment est-ce que je vais vivre dans cette maison? Je vais vivre comme si j'étais encore locataire? Ou est-ce que je vais vivre comme si c'était un propriétaire? Je peux continuer à vivre comme locataire, c'est-à-dire, bon, je ne vais pas faire de trous dans le mur parce que le locataire il m'a dit, je ne veux pas ça, je ne peux pas changer le carrelage, je ne peux pas faire ceci, cela. Ça, c'est un locataire, il vit sous des contraintes. Tandis qu'un propriétaire, il fait ce qu'il veut. Hein? Et maintenant, dans ma vie nouvelle, eh bien, j'ai cette possibilité. C'est vrai que je suis encore dans la même maison. Je vis dans ce corps. Mais est-ce que je vive comme locataire? Je dis, ah, c'est pas moi qui décide de tout, je fais pas, j'ai une nature. Ou bien est-ce que je vais vivre comme celui qui il a compris qu'il est propriétaire, qu'il est chez lui, hein, que je suis réellement enfant de Dieu? Hein, c'est un peu ce qu'il nous disait, le péché n'a plus de pouvoir sur vous, il ne peut pas s'imposer. Bien sûr, il va essayer de venir salir la façade et tout ça, mais il ne peut pas s'imposer. Maintenant, je suis à Dieu. Je dois vivre, c'est à moi de dire, donc Dieu, tu m'as dit, je suis à toi, je suis sauvé, et bien maintenant, je vais vivre comme un sauvé. Et voilà, c'est une autre manière, déjà, dans la pensée. Je me rappelle, la première fois que j'ai acheté quelque chose, je suis rentré dans la maison avec mon document et mes nouvelles clés, et je rentre dedans. Bah, c'était un sentiment agréable. Je suis chez moi. Hein? Je veux casser, je casse. Je veux réparer, je répare, c'est pour moi. C'est un autre sentiment. Mais c'est la même chose que lorsque je reçois Jésus-Christ dans mon cœur, tout d'un coup, je dis, mais c'est un statut nouveau. Maintenant, je suis sauvé, je dis, ce que je le fais parce que je le veux. Et si je le fais pour Dieu, c'est parce que je veux faire pour Dieu, avec reconnaissance. Alors, c'est justement cette question que l'apôtre Paul pose pour les autres. Hein, et il dit, maintenant que vous avez été rachetés, ben, allez-vous vivre encore comme avant? Ou bien est-ce que vous allez vivre cette vie nouvelle? Et pour un peu illustrer la chose, l'apôtre Paul se sert de deux exemples. Dans le début du chapitre, la première partie du chapitre, il s'était servi de l'exemple de la mort et de la résurrection. Il employait l'image du baptême, il dit « Donc vous êtes mort à la vie passée et vous êtes ressuscité à une vie nouvelle. » Il dit « Mais si vous étiez mort et maintenant vous êtes ressuscité à vivre, est-ce que vous allez vous voir retourner à l'état précédent ?» Non, ce n'est pas normal. Si on était mort dans nos péchés et nos offenses, séparés de Dieu, incapables d'avoir une relation avec Dieu, et là maintenant, je suis passé par cette étape où j'ai mis les choses en règle avec Dieu, maintenant j'ai une vie nouvelle, et j'ai la possibilité de vivre et de m'épanouir et de vraiment vivre pleinement ce que Dieu avait, ce à quoi il pensait quand il m'a créé. Avec les talents qu'il m'a donnés, avec les capacités qu'il m'a données, avec l'environnement qu'il m'a donné, et d'aller au maximum, et bien ça c'est un désir nouveau, et je veux le faire. L'image qu'il emploie ici, dans ce passage que nous avons lu aujourd'hui, c'est l'image qui était très parlant pour l'époque, c'est l'esclave qui vient d'être affranchi. Il avait un maître, qui n'était pas un bon maître, et quelqu'un l'a racheté, quelqu'un a pris le prix et l'a affranchi, pas seulement qui est devenu propriétaire, il l'a affranchi, il a dit maintenant tu es libre. Est-ce que il va dire oh, ben, j'étais tellement habitué, j'ai passé tellement d'années avec l'autre là, même s'il était méchant, mais bon, c'est ce que je connais, moi je suis plus à l'aise là, je vais retourner là. Vous dites mais il va pas bien celui-là. Mais c'est pareil, le chrétien qui est venu à Christ, qui a vu son état pécheur, qui est tout ça, qui dit « Dieu, pardonne-moi », tout ça. Après, il va retourner dans la vie qu'il avait avant, avec les amis qu'il avait avant. Avec... Il dit « Mais écoute, c'est pas logique. Si tu viens d'être libéré de ça, tu retournes. Hein? Vous êtes en train de vous noyer, on vous sort, on vous met sur le bateau et puis vous plongez dans l'eau. » Mais il dit ça. Mais il dit « Écoutez, Et c'est ça qu'il est en train de nous de parler. Il nous dit, écoute, il n'y a pas de raison. Si Dieu a fait quelque chose, fait quelque chose de bien, maintenant, vous vivez pour lui. On aura l'occasion, dans le chapitre 7, de parler de notre faiblesse et de la lutte et tout ça. Ça, on en parlera. Mais pour l'instant, le principe de base, c'est la vie passée, elle est passée, sinon elle n'est pas passée, et on vit la vie nouvelle dès à présent. J'ai lu cette semaine une phrase qui dit vous vivez aujourd'hui ce que vous avez semé dans le passé et demain vous récolterez ce que vous semez aujourd'hui. Il n'y a pas 36, hein, je choisis aujourd'hui la vie que je veux, hein. Si je veux ce qu'il y a devant, il faut commencer aujourd'hui, hein. Et donc, il s'est servi de ces deux illustrations et nous arrivons au verset 17. Hein, donc, il dit « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. » Donc, volontairement, c'est avec votre cœur, vous avez obéi de cœur. C'était votre choix, c'était un libre choix, personne ne vous a obligé, c'est vous qui l'avez voulu, c'est vous qui l'avez demandé. Il dit, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous aviez été instruit, ou même le mot grec, c'est livré, hein, que vous avez été livré. Hein, vous êtes se livrer, ça veut dire que je remets tout et je ne contrôle plus. Hein, c'est contrôlé par autre chose, c'est ça être livré, je me livre à quelque chose, c'est que je me donne pleinement. Hein, il dit, vous avez reçu un enseignement, vous avez reçu un enseignement doctrinal qui vous a expliqué les choses et vous avez dit, moi, c'est bon, je signe, j'y vais. Hein, et il dit, grâce soit rendue à Dieu. Il dit, vous avez fait une bonne chose. C'est... Et, vous avez répondu. Et en fait, et comme c'était volontaire, hein, c'était pas obligatoire, vous avez choisi de vivre cette vie, vous avez désiré la délivrance, vous avez désiré. Il faut la vivre jusqu'au bout. Donc, comme nous l'avons dit, hein, dans les deux cas, hein, le cas de mort ressuscité ou esclave affranchi, eh bien, il est ni raisonnable ni normal de vouloir retourner à son état précédent. Et en plus, il nous dit au verset 21, il dit en plus, quand tu y penses, il dit, mais est-ce que vraiment tu es attiré à cette vie-là? Tu te souviens dans quel état tu étais quand je t'ai trouvé? Est-ce que vraiment tu veux retourner à cela? Hein, tu vivais une certaine vie, et voilà le résultat. Et pour chacun de nous, c'est très différent. Hein, et on a d'autres. Il dit, mais tu veux revivre ça? Ou est-ce que tu veux vivre autre chose? Un épanouissement dans le Seigneur. Le fait d'être sous la grâce n'est pas une raison pour ne pas respecter la loi de Dieu. Hein, c'est pas, la loi de Dieu n'est pas pour s'imposer, pour nous condamner. Maintenant, la loi de Dieu, l'Ancien Testament, vous savez, on le lit toujours, mais ça nous sert de guide. Hein. Quand je lis l'Ancien Testament, c'est pour savoir comment vivre ma vie nouvelle. Ce n'est pas pour me sentir culpabilisé. Hein. Et donc... Donc, je vis sous la grâce, mais je dis, mais ce qu'il a mis dans ses lois, c'est ce qu'il a voulu. Hein, donc, ça m'intéresse de savoir ce qu'il avait mis là. Vous savez, quand Dieu nous a créés, il avait une volonté, et on a été créés pour une certaine mode de vie. Je prends encore une fois un exemple. Le constructeur de votre voiture, quand il l'a construite, il a mis une volonté dans cette voiture. Il a dit, cette voiture, je la crée, mais pour rouler sur des routes. Et je l'ai créée, et il y a un certain entretien pour que ça fonctionne bien. Et si je respecte la volonté du constructeur, la voiture va me servir et me donner beaucoup de satisfaction. Mais si je ne respecte pas la volonté du constructeur lorsqu'il a conçu la voiture, eh bien, je suis en chemin vers la casse. Il n'y a pas 36 solutions. Et donc, mais vous savez, c'est pareillement avec Dieu. Il m'a conçu pour une certaine vie. Hein. C'est lui le créateur, c'est lui qui avait le choix de concevoir. Hein. Comme le potier, c'est lui qui décide la forme du pot. Et puis, dans un sens, il a décidé à quoi va servir le pot. Hein, donc, Dieu, le constructeur, il avait prévu un certain mode de vie, il avait quelque chose. Et si je vis pleinement ce que lui a pensé, je serai heureux. Mais si j'abuse de ça et je fais autre chose, essayer de prendre votre voiture et d'en faire un tracteur ou votre mixeur et de mélanger du plâtre ou du ciment dedans, vous allez avoir des problèmes. Hein. C'est parce que ce n'était pas prévu. Ce n'était pas ça qui était prévu. Et donc, après, si je ne respecte pas ce pourquoi le Seigneur m'a créé, eh bien, il ne faut pas... C'est-à-dire, si ma voiture, je ne m'en sers pas comme il a prévu, je risque de... il ne faut pas aller me plaindre auprès du constructeur. Hein. Dire à la voiture, je m'en suis servi comme camion... Ah, il dit, écoutez, ce n'était pas prévu pour ça. Hein, venez pas vous plaindre chez moi. Mais c'est pareil. Si l'homme, il fait du n'importe quoi, il ne respecte pas les règles que tu as voulu pour la vie humaine et la vie sur la terre, déjà, bon, quand on parle de la nature, les gens comprennent bien. Ils disent, ah oui, c'est vrai, la nature, il faut la respecter, il faut tout ceci, c'est ça, pour que ça. Elle nous servira bien si on prend bien soin. Mais quand ça arrive à l'homme lui-même, il dit, non, non, moi, je veux faire ce que je veux. Et après, quand il a des problèmes, la société, et puis les parents, ils se disputent, et puis les enfants, ils ne sont pas contents, et puis les voisins, les pays voisins ne sont pas contents, et puis il y a des maladies qu'on circule. Après, il dit, ah, oh, Dieu, où t'es où? Il dit, mais tu abuses de ce que j'ai fait. Moi, je n'ai pas prévu ça pour voir. Je n'ai pas prévu ce mode de vie, ce mode de comportement. Tu oses en plus venir te plaindre à moi. Et donc, vous savez, en fait, Jésus, quand il est mort sur la croix, c'est pas qu'il avait besoin de petits êtres humains, des petits bonhommes qui circulent dans le ciel pour garnir le ciel parce qu'il n'y a pas grand-chose et c'est très grand et puis il a besoin de bibelots. Non, 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 c'est pas ça. C'est que Dieu, Christ est mort sur la croix, c'est pour nous libérer, pour que nous donner une autre chance de devenir ce que Dieu a prévu pour nous. Et son intention, c'est que nous puissions le glorifier par notre vie. Pas seulement des mots, et pas seulement des belles paroles. Hein, on lit une prière de quelqu'un d'autre parce qu'il écrit mieux que nous. Et puis, voilà, on récite ça, et puis bah, il devrait être content. Hein, bah, je lui ai fait trois prières. Mais non, 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 c'est pas du tout. Il dit, moi, je veux que toi, tu vives pour moi. Hein, c'est comme dans une famille. Hein, le petit gamin qui a quatre pattes, il peut donner autant de plaisir aux parents que l'enfant qui est bon en sport ou que l'enfant qui réussit ses examens, il donne autant de plaisir. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire ce qui est normal. Il vit, il fait ce que ça a été prévu. Hein? Et donc, c'est le même principe dans la vie. Alors, c'est pour ça qu'on arrive à ce verset 22 et 23, en fait, il dit, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, et bon, c'est un maître qui cherche notre bien, hein, il dit, esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Hein, la vie d'avant, ça menait vers le péché. Regarde le verset 23, il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Vous vivez cette vie-là, ça mène à la mort. Vous abusez de votre voiture, c'est la casse. Il dit, mais si vous vivez cette vie nouvelle que nous avons en Jésus-Christ, eh bien, le fruit, c'est la sainteté, et puis la fin, eh bien, c'est pas la casse, c'est la vie éternelle. Hein. Il dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, c'est son don. Hein, donc, c'est pas que je le mérite, c'est que je l'ai pris quand il me l'a offert. Je l'ai reçu. Il dit le don gratuit de Dieu. Et il a ajouté, parce que déjà un don c'est gratuit normalement, hein, sinon c'est pas un don. Mais il a dit, hein, mais je veux être sûr que tu n'as pas de doute, parce que le diable il va venir jouer avec tes pensées, et puis il va dire, ouais, mais c'est un don, mais bon, il y a des trucs derrière. Hein, c'est comme beaucoup de cadeaux qu'on reçoit dans la vie. Hein. C'est des cadeaux, empoisonnés. Hein? C'est bizarre, hein, c'est comme expression. Il y en a qui ont dû le vivre comme ça pour qu'ils trouvent ce mot-là. Hein? Mais non, non, pour Dieu, c'est pas un cadeau empoisonné. C'est un cadeau qui donne la vie éternelle, le don gratuit de Dieu. Et donc, je fais remarquer que. Souvent, vous avez trouvé ce verset 23, hein, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et on donne ça sur les traités, on donne ça pour les inconvertis. Le chapitre 6, c'est pour les chrétiens. Oui, c'est vrai pour les gens du monde, le salaire du péché, c'est la mort, et le don gratuit de Dieu. Mais c'est aussi vrai pour le chrétien. Si tu as été sauvé, mais tu décides de vivre... Hein, d'abuser de cette nouvelle vie et puis d'aller faire du n'importe quoi, eh bien, tu te sépares de Dieu, tu t'éloignes de Dieu. Hein, et donc, vous avez peut-être vu des chrétiens qui sont loin de Dieu, mais c'est quelque part, ils n'ont pas vécu la vie Et donc, ça amène vers la séparation avec Dieu. Et on les voit, ils se comportent comme les gens du monde, parfois pire. Hein. Il y a certains inconvertis que je préfère avoir qu'à faire avec certains chrétiens. Mais c'est pas parce qu'ils, c'est parce qu'ils ne, c'est parce qu'ils se disent chrétiens, c'est parce qu'ils, mais ils se sont éloignés de Dieu, ils ne vivent pas par l'Esprit de Dieu. C'est tout. Hein, c'est la chair est la même. Hein, pour un chrétien qui s'éloigne de Dieu, la chair qui reprend le dessus, ça ressemble à la chair d'avant. Hein, c'est la même chair. Hein, donc il ne faut pas être étonné. C'est pour ça qu'il y a un entretien. Prenez un jardin rempli de mauvaises herbes, le jardinier il arrive, il fait le ménage, il met tout ça, il met quelque chose de bien, mais s'il ne l'entretient pas, ça va vite ressembler comme c'était avant. Hein. Et donc, nous devons rester, et c'est ça que j'aime. C'est-à-dire, la Bible, c'est bien fait, parce que le salut, il me le donne gratuitement, il dit, voilà, ça, tu ne pouvais pas l'avoir, il n'y a aucun moyen que tu pouvais l'avoir, donc ça, je te le donne, c'est gratuit. Tu as la clé et tu as tout est là. Maintenant, il me dit, mais bon, maintenant tu peux participer à cette vie chrétienne. Hein, maintenant, c'est toi qui prends l'initiative et tu participes et tu vis et tu développes et tu vois ton développement et tu vois le progrès. Et vous savez, l'être humain aime ça. Hein. On n'est pas des robots. Hein. Tu branches, allumes et puis il fait ce qu'il a à faire. Non, l'être humain, c'est un être qui aime pouvoir faire et participer à sa croissance, son élaboration et son développement, son épanouissement. Et quand il participe et il voit le progrès, il est heureux, hein, n'importe quel âge. L'être humain, il a été pensé comme ça. Eh bien, Dieu fait la même chose dans notre vie spirituelle. Pourquoi ? Parce que le concepteur de notre corps, c'est le concepteur de notre vie spirituelle, hein, c'est le même. C'est ça marque sa personnalité. Et donc, c'est notre croissance. Et donc, la vie chrétienne, eh bien, Dieu dit, écoute, je te donne, parce que tu ne pouvais pas l'avoir, je te donne la vie pour démarrer. Hein, et puis, maintenant, tu vas. Hein, et Jésus, en plus, il dit, et je suis avec toi. Et puis, si jamais tu glisses, je te ramasse, il n'y a pas de problème, et on continue. Hein. Et c'est ça, la beauté de l'évangile de Dieu. Les religions, il te dit, écoute, fais comme ça, puis débrouille-toi. Puis je t'attends à la fin de la route et on va voir ce que tu as fait. Tandis que Jésus dit, écoute, moi je te relève ici, je te nettoie, tu es tout propre, et puis on va faire de la route. Si jamais tu tombes, tu salis, tu es là, je te relève, on va, puis on continue. Et on développe la vie. C'est une belle chose, l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Alors il dit, et donc, vous avez remarqué ici, au verset 22, il dit, mais maintenant, étant affranchi. Donc réellement affranchi, hein, c'est pas progressif, vous êtes réellement affranchi, c'est sur papier, c'est marqué, vous êtes libre. Maintenant c'est à vous qui choisissez de vivre encore comme un locataire ou de vivre comme un propriétaire, ça c'est votre choix. Mais la maison, elle est à votre nom. Et il dit, maintenant étant affranchi du péché, devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit, voilà ce que vous devriez, la sainteté. Il y en a beaucoup qui aiment bien sauter cette partie-là, ils disent, ah oui, la vie éternelle, ça je veux bien, ça oui. Ils sont venus à Jésus uniquement pour la vie éternelle, pas pour le reste. Ils disent, écoute, ne me demande pas plus, donne-moi la vie éternelle, je veux être sûr d'avoir le ciel, hein, je veux le visa pour le ciel, et puis, ou la carte crédit qu'il faut pour aller là-bas, puis après le reste, après, je me débrouille. Non, non. Il dit, ce qui est normal lorsque j'ai cette vie-là, eh ben, c'est la sainteté. Oh, ça c'est... Ça, qui veut... Ben, la sainteté, c'est la pureté, c'est tout. Hein. En fait... Le mot saint dans l'Ancien Testament, c'était le fait d'être consacré à Dieu. C'est ça que le mot saint. Quand une chose était consacrée à Dieu, elle était sainte. Et donc, on la mettait dans le temple, on la mettait, mais après, une fois que c'était consacré à Dieu, après on dit, bon, ça c'est saint, et on ne fait pas n'importe quoi avec. Nebuchadnezzar, il a essayé de faire n'importe quoi avec les ustensiles du temple et vous savez ce qui lui est arrivé. Hein? Donc, il dit, voilà, vous, maintenant, vous êtes sauvés, maintenant vous êtes libres. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre nouvelle vie, notre nouvelle liberté? Eh bien, si on regarde un peu plus loin, Romains chapitre 12, hein, on y arrivera plus tard, mais bon, juste pour par anticipation, et il nous expliquera tout ça. Mais chapitre 12, versets 1 et 2, il dit « Je vous exhorte donc, frères. » Hein, donc il aura fini de dire tout ce qu'on va dire dans le chapitre 6, 7, 8, 9, 10, hein, 11. Et alors il arrive là, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. » Donc c'est vous qui le faites, hein, c'est lui, pas lui qui prend, ça c'est votre, hein, c'est votre initiative. Il dit « Je vous donne la vie éternelle, mais après ça c'est vous. Hein. » Offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc il dit bah, et Dieu, quand je mourrai, tu pourras me prendre. Non, il dit je te veux maintenant. Hein. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit c'est rien d'extraordinaire, hein, c'est normal. Verset 2, concrètement, ne vous conformez pas. C'est-à-dire, ne prenez pas la forme du siècle présent, mais soyez transformés, ou le mot, là, c'est le mot grec « métamorphosé », c'est-à-dire de ce que vous étiez, le ver qui mangeait, hein, j'en ai des chenilles, là, j'en ai eu dans le jardin, là, il mangeait feuilles, mais il dit « soyez métamorphosés, devenez le petit papillon, là, qui fait la beauté du jardin ». Il dit « soyez transformés par le renouvellement et au niveau de l'intelligence ». Vous allez penser autrement, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Et cette volonté, c'est bon, agréable et parfait. Ça correspond exactement à ce que Dieu a prévu. Hein? Ce pourquoi Dieu vous a conçu. Ça m'amuse toujours quand ma femme, elle va dans le jardin pour travailler. Moi, quand je dois travailler dans le jardin, je vais chercher mes outils dans le garage. Vous savez, elle, où elle va les chercher? Dans la cuisine. Elle dit, oui, mais c'est... Je dis, chérie, mais c'est pas fait pour ça. Oui, mais ça marche. Non. Le Seigneur a dit, voilà, moi, je vous ai conçu pour une certaine chose. C'est pas une question de ça marche, c'est une question de... Voilà ce qui était prévu. Et ça serait... C'est bien mieux. Et donc, nous voulons vivre cette vie nouvelle et nous devons la vivre. Et donc, ça prend un engagement, hein, c'est un engagement de notre part. Hein, il dit, c'est votre choix, c'est vous qui choisissez de le faire. Et il parle de livrer vos corps au Seigneur. Hein, je reviens à Romains chapitre 6 et c'est le verset 19. Dit, donc à la fin du verset, il dit « Mais maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » Donc livrer, on l'a dit tout à l'heure, hein, livrer, ça veut dire « Bon, je te le remets et je ne contrôle plus, c'est toi qui, hein, je te le livre. » Quand le gars il vous livre une pizza, et bien après, il ne contrôle plus sa pizza. Hein, il vous l'a donnée, vous en faites ce que vous voulez. Livrer, c'est ça. Hein, c'est se livrer à quelqu'un, se livrer à quelque chose, c'est voilà, on enlève les mains. Eh bien, il dit voilà, livrez vos corps, vos membres, comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Laissez agir la justice, faites-le, et la sainteté, elle se fera, la consécration à Dieu se fera. Hein. C'est une chose qui est progressive. On parlera aussi éventuellement de la sanctification. Hein. Donc, il nous dit d'être saint, mais après, c'est une œuvre progressive. On en parlera, la sanctification. C'est-à-dire, au fur et à mesure de ma vie, eh bien, je suis de plus en plus consacré à Dieu. Je suis de plus en plus, je corresponds à ce qu'il a voulu. Et c'est ça, le progrès. Et c'est, on a parfois l'impression de ne pas faire beaucoup de progrès, mais quand on regarde en arrière, on dit, bon, ce que j'étais, ce que je suis aujourd'hui, merci Seigneur. Hein, donc, il nous dit au verset 29, il dit « Maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu », il ne parle pas d'une étape intermédiaire. Il dit « Si tu as été affranchi, eh bien, la chose normale, c'est immédiatement de te mettre dans le nouveau statut, hein, sous le nouveau tassu. Il n'y a pas d'être sans rien, appartient à personne et pas savoir pourquoi on est là et ce qu'on peut faire, c'est pas prévu. L'être humain n'aime pas ça. Hein. C'est je veux savoir que mon existence compte pour quelque chose et elle va quelque part. Et alors, l'apôtre Paul dira que nous sommes affranchis du péché pour devenir esclaves de Dieu. Lisons ce passage dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, donc pas l'évangile de Jean, mais l'épître de Jean, donc vers la fin de la Bible, la première épître de Jean est au chapitre 3. Alors si vous êtes Pierre, c'est après. Si vous êtes dans l'Apocalypse, c'est avant. Donc 1 Jean, chapitre 3, je vais lire les versets 9 et 10. Donc là, dans Romains, c'était Pierre, c'est Paul qui parlait. Mais ici, ça va être Jean, l'apôtre Jean qui parle, hein, l'apôtre de l'amour. Hein, donc il dit au verset 9, il dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Il ne dit pas qu'il ne pêche pas, il ne pratique pas le péché. Hein. Pratiquer quelque chose, c'est quand on le fait et on vit là-dedans. Il dit « Quelqu'un qui est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. » Donc la vie de Dieu, hein, la semence, ce germe qui donne la vie est là en lui. « Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Pécher, ça veut dire pécher, vivre dans le péché, hein, continuer dans le péché. Un exemple qui est parfois donné, c'est vous avez une grosse flaque avec de la boue. Et il y a un cochon qui passe à côté et il y a un agneau qui passe à côté. Il se peut que l'agneau glisse et tombe dedans. Et qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il sort. Le petit cochon là, tout mignon, tout rose, lui tombe dedans, qu'est-ce qu'il fait? Ah ben lui, il est bien. Ça correspond. Et bien il dit pareil, hein, quelqu'un dans sa vie, hein, il dit, ouais, je vais à l'église, tout ça. Et après, quand il sort, il passe à côté de quelque chose, et lui, il tombe dedans, et puis il reste. Tandis qu'un autre, certains, pardonne-moi. Et puis, c'est très différent, hein, c'est deux natures différentes. Alors, il est en train je reprends là le verset 9. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Voilà, si tu veux quelque chose de concret qui se mesure, voilà, comment tu penses de ton frère. Il dit pas celui qui ne pratique pas le péché, celui qui en pratique le péché est de Dieu. Il dit quiconque ne pratique pas la justice. Il n'y a pas de position neutre. Ou tu pratiques le péché, ou tu pratiques la justice de Dieu. Mais il n'y a pas d'intermédiaire. Hein, c'est l'un ou l'autre. Maintenant, ça peut être je pratique la justice de manière imparfaite, parce que quand même, hein, les anciennes habitudes, on ne les perd pas tout de suite. Pour avoir gagné une mauvaise habitude, on l'attrape tout de suite. Hein. Vous envoyez vos enfants, des mignons petits anges, comme ça, ils sont à la maison, vous l'envoyez à l'école, et le jour même, il revient avec des mots nouveaux et tout, il a tout appris. Et vous dites, comment? Eh oui, et puis après, vous travaillez pendant longtemps pour essayer de le corriger. Vous savez, c'est comme ça. Mais il dit, ça va, Dieu sait plus que moi combien je suis faible. Parfois, moi, j'ai des idées que je suis fort. Il dit, celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Il dit, quand tu te crois fort, c'est sûr de tomber. Mais parfois, on se surestime. Hein. Mais bon, lui, il sait. Mais il est là pour nous aider. Hein. J'aime bien ces paraboles de Jésus dans l'Évangile où il dit, un berger, il avait des brebis. Puis il en a perdu une. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, c'est bien fait pour elle. Elle aurait dû suivre. C'est ça qui est marqué, non? Ah, vous n'avez pas lu la même Bible que moi, alors. Non, il a parqué les autres en sécurité, et puis il est allé la chercher. Et j'aime bien ce qu'il a dit. Il a dit, il l'a cherché jusqu'à ce qu'il la trouve. Il n'y a que lui qui sait où il est passé pour la trouver. Et pour certains d'entre nous, il n'y a que Dieu qui sait par où il est passé pour essayer de m'attirer à lui. Et pour me ramener à lui. Et il dit à personne. Il revient avec sa brebis sur les épaules, il est tout content, et puis il la met dans la bergerie avec les 99 autres. Et puis elle est toute propre, elle est toute bien, elle est tout, il vient de la nourrir et tout, il l'amène là, elle ressemble aux autres. Il n'y a que lui qui sait ce qui s'est passé. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Vous savez, c'est un Dieu, j'aime un Dieu comme ça. Ça correspond à la manière dont moi j'ai été conçu. Voilà. C'est mon Créateur, il m'a conçu pour m'épanouir dans un certain contexte, et c'est ce qu'il a mis en place. Bon, c'est sûr que ça coûtait cher, la croix de Christ, c'est sûr. Mais ça nous montre combien il avait envie de nous aider à retrouver notre place dans les, devant lui. Et nous dit, écoutez, vous n'avez pas besoin de dire, moi je suis chrétien ou je ne suis pas chrétien, celui-là c'est un chrétien. Il dit, non. Il dit, juste regarde la vie qu'il mène. Ouais. Quand il tombe dans la flaque, il reste. Ça doit être un cochon. S'il se relève tout de suite et puis il essaie de se nettoyer et puis passe comme un chat, il passe du temps à se nettoyer alors qu'il n'est pas sale. Ça, il dit, ça c'est autre chose. Ça c'est une autre nature. Hein, il dit, voilà, ça c'est les enfants de Dieu. Et donc, je veux vivre, j'ai été délivré, j'ai été affranchi, le mot est là, hein, c'est chapitre 8, verset 1, il nous dit, maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hein, il n'y a plus rien, il n'y a rien au compte. Donc il dit, écoute, s'il n'y a plus rien, alors vas-y. Il n'y a rien qui te retient. Lâche-toi pour le Seigneur. Vous avez trouvé un Jean. Retournez à un Jean. Hein, ou si vous êtes, on va aller au chapitre 1. J'ai encore un passage que je veux lire là. 1 Jean, chapitre 1. Et je vais lire les versets 5 à 7. Donc 1 Jean. Chapitre 1 et versets 5 à 7. Il nous dit la nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est-à-dire de Jésus, au début il fait référence à Jésus, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Ça, c'est une vérité absolue. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, c'est-à-dire lui avec moi et moi avec lui, et le sang de Jésus, son Fils, est là constamment en train de me purifier de tout péché. Hein, c'est au présent. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. Il est en train de le faire. Il nous nettoie au fur et à mesure. Tout le long, chaque fois qu'on en a besoin, il le fait. Il dit, mais ça, c'est si tu marches dans la lumière. Comme il est lui-même dans la lumière. Si tu marches, tu marches dans les ténèbres, tu dis, je crois en Dieu, j'aime Dieu, c'est ça. Tu es en train de marcher dans les ténèbres, c'est-à-dire dans l'autre monde. Il dit, il y a quelque chose, tu es un menteur. Tu es un menteur. Et tu te trompes que toi-même, hein, tu trompes personne d'autre. Pour terminer, je relis ces deux versets à la fin du chapitre 6 de Romains, versets 22 et 23. Il dit, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Il dit parce qu'on le sait, le salaire du péché c'est la mort, vous ne voulez pas ça. Mais le don gratuit de Dieu, hein, cette vie nouvelle, ce statut nouveau, Eh bien, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous vivez cette vie nouvelle. Alors, elle a ses principes, elle a ses règles, elle a ses raisons, et vous vivez carrément ça. Hein? Donc, voilà. Donc, c'est pas une petite carte qu'on porte dans la poche ou dans le portefeuille. Hein? On dit « je suis chrétien ». C'est pas une signature sur un registre d'une église qui fait de nous un chrétien. Hein? En fait, le but de tout cela, c'est pas pour être baptisé et puis dire, voilà, je suis baptisé, c'est bon, maintenant c'est réglé, voilà, merci Seigneur, c'est bon. Non, il dit, non, t'es baptisé, mais c'est pour vivre. Hein? Le but de notre salut, c'était pas pour nous sauver. Il nous a sauvés, c'est pour que nous puissions vivre. Hein? Il retire le gars de la noyade, il se dit, écoute, je t'ai sauvé, c'est pour que tu meurs pas. Mais maintenant, bon, débrouille-toi. Ou bien, on l'accompagne pour qu'il ne se retrouve plus dans cette situation dans laquelle il se trouvait. Hein, on le raccompagne jusqu'au bord, on le soigne, on le tue, pour qu'il puisse reprendre la route et correctement. Hein, c'est Dieu dit, mais je t'ai sauvé, c'est dans un but. Hein. Que c'est bien pour nous de comprendre la pensée de Dieu. Après, ça change tout notre manière de vivre. Hein. Donc, ne vivons pas le christianisme, mais vivons la vie de Christ. Hein, c'est ça. Que le Seigneur nous aide. Nous allons prier. Je vais avoir un moment de silence où chacun pourra, par rapport à sa vie, par ses luttes, par rapport à essayer de se situer, dire, mais écoute, où est-ce que je suis ? Je suis un agneau, mais je suis tombé dans la flaque. Et ça, c'est mon état. Ou bien, je suis pas encore, et j'ai besoin. C'est-à-dire, vous vous situez devant Dieu, et puis vous dites à Dieu, voilà, je crois que je suis là. Et je veux que tu me prennes à partir de là, hein, et que tu fasses ton œuvre. Puis ensuite, je vais prier.